Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur Canal Academy dans une émission consacrée à l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française et même européenne du tout début du XVIIe siècle, L'Astrée d'Honoré d'Urfé. Pour nous rappeler qui était cet auteur et évoquer ses principales données biographiques, mais surtout pour nous renseigner et nous présenter ce chef-d'œuvre, j'ai le plaisir de recevoir Madame Delphine Denis, à qui l'on doit la toute première édition critique intégrale de L'Astrée. C'est un travail collectif immense qui comportera 5 tomes et dont le premier tome vient de paraître aux éditions Honoré Champion dans la collection Littérature. Madame Denis, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints dans le studio. Je propose qu'on divise cette émission en quelques parties parce qu'il y a beaucoup à dire et on ne pourra pas tout dire.
Certes.
Mais on essaiera d'en dire le maximum en une trentaine de minutes. D'abord, la vie d'Honoré d'Urfé, dont les dates sont 1567-1625, donc il est mort à 58 ans. Qui était-il? De quelle lignée? Quelle famille? Quelle éducation?
Alors, c'est si important et si intéressant qu'on a pris soin de faire une petite notice biographique en tableau pour éclairer un peu cette édition dont vous avez eu la gentillesse de parler. Je vais aller un peu à l'essentiel parce que l'auteur me paraît représentatif de toute une tradition, à vrai dire, de la génération qu'il précède, mais à laquelle il appartient encore. On pourrait dire un gentilhomme d'homme et de lettres, tradition tout à fait italienne, mais aussi française. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que pour quelques-uns de ses premiers biographes, il figure au titre d'homme de lettres tout autant que d'homme d'armes. Alors, donc, il est d'une famille qui appartient par sa mère à la lignée de Savoie, une famille légitimée, hein, donc sa fidélité à cette famille. Savoisiade lui vaut tout un certain nombre de choix politiques qui vont être déterminants, non seulement les siens, mais ceux de son frère et de ses frères. À vrai dire, c'est un tout petit cadet de famille, c'est le 6e d'une lignée de 7 enfants. Il n'a donc pas forcément tout à fait le choix de ses décisions. Et quant aux côtés de son père, il a la chance d'être l'héritier d'une famille assez récente mais très haut placée, qui a dans la région du Forez, à laquelle il appartient et dont je pense que nous reparlerons, transporté en terre donc forésienne une tradition humaniste venue de l'Italie et notamment tout un héritage patrimonial de culture, de bibliothèque et de rencontres qu'on pourrait appeler académiques, même si il n'y a pas d'académie forésienne. En revanche, auprès de François de Sales, il en existe une et il la fréquente. Donc vous voyez qu'il y a là un homme qui, d'une part, a fait partie d'un certain nombre de décisions et de guerres politiques. C'est un ligueur, un ancien ligueur rallié, comme son frère, mais à des moments différents, à la cour, en tout cas au règne d'Henri IV, rallié pas sans concession, et qui n'a pas non plus été un des ligueurs les plus virulents. Il n'empêche que sa fidélité lignagière lui a fait faire des choix qui le mènent sur les chemins de la guerre. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que ce roman, qui est à éclipse, hein, les tomes et les volumes se scandent en fait en fonction des campagnes militaires de l'auteur, d'une certaine manière, est aussi l'écho de cette vie d'homme d'armes et de lettres qui est Honoré d'Urfé.
Un personnage donc qui a même occupé quelques fonctions diplomatiques, donc à la fois militaire, diplomate, écrivain, un personnage complet comme vous le disiez. Quelle a été la principale difficulté que vous avez rencontrée pour établir cette édition critique et pourquoi est-ce l'une des premières éditions critiques? Pourquoi n'y en avait-il pas d'autres?
Vous soulevez là un vrai regret de beaucoup, beaucoup d'éditeurs avant le nôtre. Il est vrai que cette édition nous manquait cruellement. Et lorsque nous l'avons entreprise, nous savions bien qu'il s'agissait d'un vrai défi à relever, en quelque sorte une gageure. Nous l'avons fait avec la confiance de notre éditeur, en l'occurrence Philippe Sellier, pour la collection Champion, hein, dans laquelle ce livre paraît, mais aussi avec, ma foi, une bonne dose, non pas d'inconscience, nous savions de quoi il revenait, mais d'optimisme. Et alors, pour vous expliquer rapidement, ainsi qu'à nos auditeurs, les raisons qui ont empêché les meilleurs spécialistes de se lancer dans une telle entreprise, on peut les rapporter à trois cas de figure. Le premier est d'ordre purement philologique. En réalité, le texte n'était pas établi, il est très difficile à mettre en place, c'est-à-dire tout simplement donner à lire à des lecteurs un texte autorisé, un texte stable. Il faut savoir qu'il y a une histoire tout à fait romanesque de cette œuvre, par exemple un vol de manuscrits pour une quatrième partie, la nièce d'Honoré d'Urfé, pour se faire de l'argent, a donc dérobé à son oncle un manuscrit qu'elle a vendu à un éditeur qui a donc fait publier une version non autorisée. Aussitôt, Honoré lui-même répond par une autre. Entre-temps, il meurt donc en 1625 et la conclusion elle-même est double. Il y a en fait deux versions concurrentes de la conclusion de Lastrée qui est posthume. Donc, ne serait-ce qu'à ce stade, vous imaginez le casse-tête éditorial qui attendait les valeureux et fidèles bergers prêts à se lancer dans l'entreprise. C'était une première difficulté. Nous l'avons en partie levée grâce à l'Internet et le fait que nous ayons un site qui figure dans les collections internet de la Sorbonne. Donc ça nous a au moins permis de ne pas entièrement effacer cette mémoire compliquée du texte. S'ajoute à cette difficulté une, dont nous reparlerons peut-être, qui relève de la langue. À vrai dire, est-ce une langue moderne ou bien est-ce une langue encore du XVIe siècle, auquel cas son appareillage, son annotation, le lexique, la syntaxe demandaient beaucoup, beaucoup d'élucidation et nous avons dû, en ayant eu beaucoup de débats à cet égard, trancher pour une orthographe à l'ancienne, non sans regret, parce que peut-être peut-elle détourner des lecteurs de ce livre.
J'essaierai... On s'habitue à lire à l'ancienne.
Je crois, oui, oui. Mais ça suppose mais un œil qui efface un certain nombre de syllabes et de lettres parasites. Et puis surtout, la très grande difficulté, c'est ce que je ne rappelais qu'allusivement s'agissant de la vie de l'auteur, c'est un homme élevé dans la culture humaniste du XVIe siècle. Et de ce point de vue, comme ancien élève d'un collège de jésuites à Tournon, très vraisemblablement, il a été l'héritier et le passeur de toute cette culture dont finalement Lastrée résonne et qui nous a demandé et qui nous demande encore aujourd'hui, car nous n'en sommes qu'à la deuxième partie. Je rappelle qu'il y en a cinq, vous l'avez dit. Autrement dit, nous ne sommes pas sortis, de l'auberge, mais de la bergerie. Donc, il fallait vraiment s'associer des savoirs très, très divers et faire écho à cette culture encyclopédique qui relève de l'histoire, de la géographie, de l'emblématique, de la mythologie, de la tradition. Rhétorique. Et c'est aussi pourquoi l'annotation a pu décourager plus d'un spécialiste et c'est la raison pour laquelle je me suis entourée d'une équipe de gens extrêmement compétents dans des domaines complémentaires.
Je vous propose qu'on marque une courte pause musicale avant de nous plonger dans l'œuvre. Retour dans notre studio avec Delphine Denis pour nous plonger avec elle dans l'œuvre Lastrée d'Honoré d'Urfé. Alors le titre ne comporte qu'un nom, Astrée, mais il ne faut pas s'y fier. Honoré d'Urfé dresse le portrait de bien d'autres personnages et qui ne sont pas tous bergers. Alors je crois d'ailleurs que vous avez proposé dans ce livre un résumé de l'histoire, des histoires, devrait-on dire. Ce résumé fait quand même 4 pages et encore c'est résumé. C'est pour dire que c'est un roman complexe. Vous l'avez déjà dit, mais je crois qu'il faut peut-être nous aider à replonger dans l'histoire. Ça se déroule où, d'abord, ce roman ?
Alors, dans le Forez, qui est une région proche de Lyon et de Saint-Étienne, dont effectivement le statut est très particulier, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Cette région que Honoré d'Urfé connaît, car il en est natif, par sa famille paternelle, d'une certaine manière, représente une sorte de royaume idéal tel qu'il le pense à l'époque, s'agissant d'un royaume de France lui-même dévasté par les guerres de religion, déchiré et qui est à la recherche d'une formule discutée à l'époque par les politiques du temps que Honoré d'Urfey lui-même appelle le consentement mutuel. Et voyez là qu'il y a un beau programme politique en arrière-plan de cet ancrage. Mais pour revenir à votre question, vous avez en effet raison de souligner que même si l'Astrée est, à la manière dont Charles Sorel le nomme tardivement, un livre de berger, autrement dit un roman pastoral, pourrait-on dire en termes modernes, le titre de l'édition originale, qui sera repris constamment par toute la suite de la tradition livresque de ce roman jusqu'aux dernières éditions collectives en 1647 porte bien, et j'aimerais le lire pour nos auditeurs, d'abord la marque de ce gentilhomme d'hommes et de lettres qu'est Honoré d'Urfey et puis aussi de la variété des histoires qui y sont représentées. Je me permets juste, si vous m'y autorisez,
mais oui,
la lecture de ce titre. Alors, première partie de l'Astrée, évidemment déclinée en 5 parties par la suite, de Messire, Honoré d'Urfey, vous voyez bien, ce n'est pas d'Honoré d'Urfey, Messire, s'ensuit. Gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, comte de Châteauneuf, baron de Châteaumorant, etc. Vous voyez qu'il décline ici ses titres, acquis parfois tardivement à la faveur du ralliement dont j'ai rappelé l'historique s'agissant d'un ancien ligueur. Et puis nous lisons où ? Par plusieurs histoires, et sous personne de berger et d'autres, sont déduits les divers effets de l'honnête amitié. Il y a donc des bergers et d'autres. Et ces autres, ma foi, nous y croisons des druides, des nymphes, des chevaliers, un personnel très varié, même un jardinier nommé Fleurial, on ne peut pas mieux rêver. Après tout, certains l'ont tenté, je pense ici à Beaumarchais, il y a tout un personnel extrêmement riche et qui représente en effet une variation autour du thème si important au cœur du livre de l'honnête amitié qui informe aussi une manière d'être au monde et en société et avec les autres.
Mais c'est tout de même un vrai roman avec des intrigues, avec des personnages, d'ailleurs des personnages réels et d'autres qui sont plus surnaturels, si je puis dire. C'est véritablement un roman. Ce n'est pas une suite de nouvelles, par exemple.
Non, voilà, vous avez raison de rappeler que même si la tradition de la nouvelle littéraire, en particulier au XVIe siècle, a pu informer en partie cette œuvre, le choix que fait Honoré d'Urfey n'est pas du tout celui-ci. De ce point de vue, il est plus proche de la tradition espagnole avec la Diana de Montemayor. En réalité, le récit cadre d'un bout à l'autre. Les histoires contrariées d'Astrée et de Céladon, ces deux bergers du forêt, que tout sépare à l'orée du roman Mécou, que tout réunissait auparavant, se croisent avec d'autres histoires de bergers, de chevaliers, mais dont l'insertion n'est jamais artificielle et dont le dénouement, comme dans la Diana, doit inévitablement les ramener au cœur du moment où se déciderait, je dis bien déciderait, leur sort, c'est-à-dire devant la fontaine de vérité d'amour, où ils seraient appelés magnifiques et en même temps déceptifs, parce que dans cette fontaine, qui est brouillée depuis un enchantement maléfique, vous parliez de personnel mystérieux, voici une sorcière, Mandrague, on ne voit plus rien dans cette eau magique où autrefois des amants se reflétaient et voyaient à côté d'eux la personne qu'ils aimaient et dont ils étaient aimés, ou bien se voyaient seuls s'ils étaient désespérément mal aimés.
Et bien
cette fontaine est brouillée, et le roman démarre de cette sorte, et du coup, toute la quête éperdue de nos personnages voudrait leur faire voir ce que, à la fin seulement du roman, mais sans qu'on ne sache après ce qu'il s'y mira, eh bien, elle soit enfin délivrée de ce maléfice et rendue à la transparence des cœurs. Et c'est à cette quête éperdue de transparence qu'est voué le roman, qui justement la livre à l'indice des signes, à la quête des repères et à l'infinie recherche des cœurs. Et c'est pour ça que c'est un roman qui nous parle encore, un roman sentimental, certains ont pu le dire, en tout cas un roman que Rousseau a lu de cette manière, lui qui, dans La Nouvelle Héloïse, y fait de nombreuses allusions.
Alors justement, vous évoquez Rousseau, donc on est dans l'autre siècle, si je puis dire. Quelle a été la postérité de l'Astrée, du roman d'Honoré d'Urfey ? Il était à son époque, je suppose, un très grand succès. et après, 17e, fin 17e, 18e, 19e.
Alors, c'est un paradoxe tout à fait passionnant que ce roman pose à ses lecteurs et à nous-mêmes. Pour tout le XVIIe siècle, c'est une évidente référence, à plus d'un titre que je ne peux pas détailler, sauf si vous m'y invitez, mais il a été adapté. Alors, par des suites romanesques. Hein. On a même écrit Une fille d'Astrée. Alors c'est merveilleux, on apprend que ce roman qui se finit sur l'amour des personnages aboutit finalement à une postérité matrimoniale avec une fille d'Astrée dont les aventures se déroulent bien entendu toujours dans le même paysage du forêt. Des suites romanesques parfois plus infidèles mais en clin d'œil, elles sont extrêmement nombreuses. Des adaptations théâtrales, elles aussi tout à fait infidèle et en même temps révélatrice de cette empreinte que le roman a sur l'époque. On choisit par exemple de mettre en scène l'inconstance d'Hylas. Et le berger Hylas, qui prône l'inconstance comme modèle de vie, n'est certainement pas le parangon de l'honnête amitié tel qu'Honoré d'Urfé l'avait dessiné. Et pourtant, il est omniprésent dans l'Astrée et parfois c'est lui qu'on choisit, de même qu'on prend quelques histoires insérées. En peinture aussi, pour toute l'époque, il informe véritablement la représentation. Qu'il s'agisse de portraits littéraires, on s'amuse à s'écrire en mode 2, hein, on signe parfois des lettres « ton cher Céladon »,« ton Astrée », et même en Angleterre, hein, où ces jeux-là continuent, en Allemagne de la même manière, mais aussi des vrais portraits peints, très nombreux, hein, que nous avons, et j'ajouterais des mises en musique également, passionnante, dont le site que nous avons créé a essayé de donner une idée et dont un disque est issu à la sortie d'un colloque que nous avions organisé en 2007, hein, discographie que je me permettrai de donner en fin d'émission. Donc adaptation romanesque, théâtrale, musicale, picturale, iconographique, et puis surtout en effet une postérité de beaucoup plus longue durée, mais alors c'est presque vrai déjà dès le XVIIe siècle, infidèle au roman en ce qu'elle n'en retient que la mémoire, une imprégnation de culture, une image de grande politesse, de grande civilité, d'honnête amitié, d'amour parfait ou inconstant avec ses contre-modèles et à coup sûr une image pleine d'émotions, parce que nos bergers ne sont pas que des figures de rhétorique, ne sont pas que des discoureurs. Ils ont des peines, ils se plaignent, certes, bien sûr, comme pour tous les bergers, devant les eaux, les noires forêts et les grottes dévastées, mais aussi ils s'inquiètent et des tourments de leur cœur, parfois certains s'en jugent et parfois ne tranchent pas, ou en tout cas tranchent provisoirement. Il me semble que c'est aussi ce qui fait que Chateaubriand, après Rousseau, a pu prendre plaisir à ses lectures et, d'une certaine manière, s'en faire l'écho pour les lecteurs tardifs que nous sommes.
On le lit encore au XIXe siècle ?
Oui, je vous donnais l'exemple de Chateaubriand, et il y en aurait bien d'autres, mais c'est vrai que c'est une lecture infidèle. Autrement dit, elle ne retient pas la lettre du roman, mais s'imprègne de son esprit. Et cet esprit, je crois, résonne pour le XIXe siècle avec une volonté de réenchanter le monde et de le réhabiter par cet ancrage d'un paysage imaginaire pour le XIXe siècle, qui pour Honoré d'Urfé était plus véritable, mais tout aussi fantasmé, et résonne aussi avec le souci de donner place au cœur. Et là, Rousseau est le grand passeur entre Chateaubriand et notre époque.
En tout cas, l'Astrée avait un lecteur assidu, si l'on en croit les mémoires du maréchal de Bassompierre, Henri IV, pendant les nuits d'insomnie que lui valut une attaque de goutte en janvier 1609, se faisait lire le livre d'Astrée qui, lors, était en vogue. C'est vous qui le citez, page 65. Et si vous me permettez de vous citer encore un peu dans cette introduction générale dont vous avez été plusieurs auteurs à rédiger, mais qui est tout évidemment à tout à fait importante pour comprendre l'œuvre. Vous dites « L'Astrée est une pièce majeure du patrimoine littéraire occidental, Par le rôle qu'elle a joué dans le développement de la culture européenne, elle occupe une place de choix dans ce que Goethe a appelé la littérature mondiale. Donc là, on donne une autre dimension qu'un simple roman pastoral. On est dans bien autre chose.
Mais tout à fait. Et à vrai dire, là encore, il faut bien avoir en tête que ce roman arrive dans un cadre européen, celui de la pastorale. Il y a eu Saint-Nazaire, l'Arcadia, avant Urfée, puis la Diana de Montemayor, dont j'ai dit quelques mots, et on pourrait multiplier les références jusqu'à l'anglais Sydney. En réalité, la dimension européenne, occidentale, puisqu'après tout, le point de passage, c'est une rêverie autour de l'Arcadie, qui est de très longue mémoire, mais dont Urfée et la Diana font autre chose, car ils ne l'ancrent pas dans des terres imaginaires. Il s'agit bien d'une référence, j'ai parlé de l'importance du lieu de l'enfance, du forêt. Mais en effet, c'est un roman dont la fortune dépasse largement les frontières françaises. Il a été traduit en allemand, en anglais, même en danois, partiellement. Et nous avons mis sur notre site, c'est très intéressant à regarder, des gravures de l'édition danoise, la traduction et édition danoise par la première partie seulement, gravure qui donc date, si ma mémoire est bonne, de 1645, contraste tout à fait avec la première édition illustrée du roman qui, elle, date de 1632-1633, avant qu'une autre au XVIIIe siècle ne la remplace, en 1733. Vous voyez que le siècle complet est passé et entre-temps, nos amis ont donné une version tout à fait différente dans l'imaginaire, en tout cas flamand, danois du terme, de ces bergers, et les voici tout à coup beaucoup plus réalistes, et finalement, clin d'œil avec la peinture flamande d'une autre époque. Et ma foi, cet imaginaire ouvert à toutes les interprétations de tous les sentiments, en effet, européens, me semble parlante. Alors, qu'en est-il outre-Atlantique? Je ne sais pas, mais nos collègues américains et canadiens s'intéressent énormément à ce texte, pour des raisons différentes, il est vrai.
Si vous vous intéressez donc à Honoré d'Urfée, à cette époque à la fois charnière entre le XVIe et le XVIIe. Je vous conseille donc de vous procurer l'Astrée première partie. Il y en aura 5 dans cette édition critique établie sous la direction de Delphine Denis. C'est paru dans la collection Classique Littérature chez Honoré Champion. Vous avez plusieurs fois fait mention d'un site. Quel est le site sur lequel on peut consulter et avoir des informations?
Alors, il est donc complémentaire. Il a été conçu comme tel de l'édition, donc il ne la redouble pas du tout. Nous avons mis beaucoup de documents en ligne, y compris les interprétations et les réécritures dont j'ai dit quelques mots. Alors, vous le trouverez en tapant tout simplement le règne d'Astrée.
Le règne d'Astrée.
Voilà.
Et en un seul mot, alors?
Écoutez, l'adresse HTTP, je vous la donnerai complète, mais si vous tapez sur un moteur de recherche quelconque le règne d'Astrée, d'accord, vous ne pouvez que tomber sur notre site et vous verrez qu'il est habillé aux couleurs vert céladon. Petit clin d'œil amusant où nous avons joué de la couleur.
Merci Delphine Denis, merci d'être venue nous présenter cet énorme travail qui est difficile. On n'a pas parlé de tout, on n'a pas notamment parlé d'une partie importante de votre travail qui consistait à retrouver les sources d'inspiration, les parallèles avec d'autres littératures. On ne peut pas tout dire, mais on peut tout lire si on en a envie. Merci à vous.
Merci à vous.